Radio Botu 107.5.
Le Forum social des villages est né sous l'impulsion de plusieurs associations des Monts du Lyonnais qui souhaitaient créer un événement pour débattre sur des thématiques écologiques, économiques et sociales. Le premier Forum social des villages s'est déroulé donc en 2001 à Brulioles. En 2002, il a eu lieu à Montretier et en 2003 à Avez. Il portait sur le thème de la croissance ou de la décroissance avec pour invité Paul Ariès, Aurélien Boiteau qui a parlé de l'empreinte écologique et puis les élus Didier Jouve et Jean-Louis Cloy. Mais le Forum social des villages, c'est aussi 15 jours de rencontres à travers les villages des Monts du Lyonnais, rencontres et débats qui portent sur des questions très locales ou d'ordre plus général.
Donc vous vous placez comme vous le sentez, c'est, il n'y a pas de place attitrée, sauf moi qui est au milieu, mais je ne dirai pas grand-chose. Juste pour introduire le sujet de cet après-midi, déjà en remerciant donc les quatre intervenants d'avoir affronté la neige, parce qu'il y en a qui viennent de loin, d'autres sont plus locales, régionales. Donc avant de vous présenter de façon plus précise les personnes présentes sur cette estrade, je vous propose trois petites phrases qui proviennent de personnages différents et qui ont marqué les mémoires. Elles peuvent en quelque sorte introduire le sujet de cet après-midi. La première dit ceci. Quand le dernier arbre sera coupé, la dernière rivière empoisonnée et le dernier poisson mort, alors l'homme découvrira que l'on ne se nourrit pas d'argent. Avez-vous une idée de cet auteur ? Un Indien.
Oui.
Ce sont les paroles d'un chef amérindien en 1854 qui exprimait son refus de vendre les territoires indiens au gouvernement des États-Unis. Il s'appelait Seattle. La deuxième phrase. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Il y en a qui connaissent cette phrase. Ce sont les termes employés dans le rapport Brundtland, du nom de son auteur, pour définir le développement durable, écrit en 1987. C'est devenu aujourd'hui une référence pour qualifier le développement durable et mettre en place les agendas 21 qui seront peut-être évoqués au cours de cette discussion. Enfin, pour terminer, la troisième phrase. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables. Connaissez-vous l'auteur de ces paroles ? Effectivement, c'est l'introduction du discours de Jacques Chirac au sommet mondial du développement durable, et là nous sommes en 2002, à Johannesburg. Le sujet qui nous réunit donc aujourd'hui a déjà été évoqué, dans d'autres circonstances, par des personnages plus ou moins connus. Les organisateurs du Forum social des villages ont voulu poser ce sujet par une question ouverte. En faisant d'abord le constat d'une situation, ça sera la première partie, et ensuite en posant des perspectives. La croissance économique en question sera donc la question ouverte de cet après-midi. Le constat sera abordé par une présentation de ce qu'est une empreinte écologique. Cela me permet de vous présenter donc, tout à fait à ma droite, Aurélien Boutot, qui a écrit une thèse sur l'empreinte écologique. Ses travaux ont été soutenus par l'ADEME, Rhône-Alpes Énergie et la communauté urbaine de Lyon. Deuxième partie, les perspectives seront quant à elles développées au travers de deux expressions porteuses, on espère, d'espoir et d'idées nouvelles, le développement durable et la décroissance. Je me tourne donc vers Paul Ariès, qui nous présentera l'originalité et la nouveauté de la pensée de la décroissance et comment cette pensée s'articule avec le développement durable. Paul Ariès est chercheur en sciences politiques. Il a notamment écrit un ouvrage sur la décroissance et il propose en fin de conférence d'éventuellement dédicacer ses livres à l'accueil. Enfin, il faudra bien savoir... il faudra bien savoir si ce constat est partagé par les personnes qui nous dirigent et s'il est possible d'envisager des actions immédiates pour un meilleur développement ou un autre développement. Nous avons donc avec nous deux élus locaux qui ont bien voulu répondre à notre invitation pour réfléchir avec nous sur ce sujet. Didier Jouve, tout de suite à ma gauche, qui est vice-président au Conseil régional Rhône-Alpes, délégué à l'aménagement et à l'animation des territoires, ainsi qu'au développement durable. Et puis Jean-Louis Cloy, qui est président du syndicat intercommunal des Monts du Lyonnais et qui rassemble trois communautés de communes, c'est-à-dire Chamousset-en-Lyonnais, Les Hauts-du-Lyonnais et Forez-en-Lyonnais. Pour que tout soit bien clair sur le déroulement de l'après-midi, voici comment nous avons organisé cette table ronde et j'en aurai fini des présentations. Aurélien Bouteau va nous faire une présentation de l'empreinte écologique durant 30 minutes avec une vidéo projection. Ensuite, je demanderai à Didier Jouve et à Jean-Louis Cloy d'apporter leur point de vue sur ce constat qui sera fait par Aurélien. Vous pourrez ensuite réagir et poser des questions aux différents intervenants sur le constat de la situation. Nous avons pensé faire une pause. On verra si c'est vraiment nécessaire, puisque à cause de la neige, on a commencé un peu plus tard, et peut-être que des personnes souhaiteront aussi partir un peu plus tôt, même si après, il y a une soirée, donc on vous invite à rester le plus longtemps possible. Après la pause, ce seront donc les perspectives que l'on abordera. Paul Ariès nous présentera la décroissance comme une alternative à notre mal développement, et ensuite Didier Jouve et Jean-Louis Cloy seront aussi invités à nous donner leur point de vue. Et c'est alors que vous pourrez continuer à réagir en posant des questions. Donc pour la qualité des échanges et permettre à chacun de s'exprimer, je vous demande donc de respecter ce déroulement de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà, j'en ai fini et je laisse la parole à Aurélien.
Bien, merci beaucoup. Alors j'ai donc la charge de faire un petit peu un état des lieux écologique à travers un indicateur qui s'appelle l'empreinte écologique. Alors je pense que la plupart d'entre vous, ou en tout cas un certain nombre d'entre vous ont déjà dû entendre parler de l'empreinte écologique. Ça va là? Donc je vais vous le présenter rapidement. Alors l'empreinte écologique, c'est un indicateur qui est né dans les années 1990, à un moment où, voilà, je vais bien parler en face du micro, à un moment où le concept de développement durable est apparu au niveau international. Et on va parler tout à l'heure de croissance, de décroissance, de développement. Il se trouve qu'on a un certain nombre d'indicateurs de développement que vous connaissez tous, par exemple le PIB, dont il sera sans doute question aujourd'hui. Or, on était face à une problématique, un nouveau concept, le développement durable, mais une difficulté à cerner cette question de la durabilité. Le développement, on sait à peu près ce que c'est, quoique on verra que c'est un concept qui est encore aujourd'hui beaucoup discuté. Mais le développement durable posait cette question de la durabilité, et en particulier de la durabilité écologique. Qu'est-ce que c'est? Et puis, comme on est dans une société dans laquelle les chiffres sont très importants, il a fallu à un moment donné essayer de trouver un indicateur qui essaye de mesurer cette question de la durabilité écologique. Cet indicateur, c'est l'empreinte écologique. Alors, évidemment, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut comprendre ce qu'est la durabilité écologique. Alors, je ne sais pas si vous allez très bien voir sur le transparent, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. La durabilité écologique, pour savoir si une société ou un système économique, ça peut être une région, ça peut être un département, ça peut être une ville, pour savoir si elle est écologiquement durable, il faut se poser deux questions, hein. Disons qu'il y a deux conditions à la durabilité écologique. Première condition, c'est que ce système, il ne consomme pas plus d'énergie et de matière que l'écosystème peut en fournir de manière durable dans le temps. Donc ça, c'est la première dimension fondamentale de la durabilité écologique. C'est cette notion de renouvelabilité des ressources et des énergies qu'on utilise. Si on veut que nos enfants, nos petits-enfants puissent en profiter, puissent avoir le même niveau de développement que nous, il faut que ce développement soit basé sur la consommation d'énergie et de matière qui soit renouvelable pour qu'on n'épuise pas les ressources des générations futures. Donc ça, c'est la première dimension qui est très importante, c'est cette notion de renouvelabilité des ressources et des énergies. Et puis la deuxième condition fondamentale de la durabilité écologique, c'est l'idée selon laquelle il ne faut pas produire plus de déchets et de pollution que l'écosystème peut en supporter. Donc cette fois-ci en aval de cycle économique, ce qu'on va rejeter dans l'écosystème, il y a cette notion, si vous voulez, de capacité de charge. Alors, finalement, les gens qui ont mis au point l'empreinte écologique, ils sont partis de ce constat simple. Une économie, quelle qu'elle soit, elle consomme des ressources, elle rejette des déchets, donc elle fonctionne comme n'importe quel type d'organisme vivant. Là, l'exemple qui est donné sur le graphique, c'était un exemple qui était donné par les auteurs qui ont inventé ce principe d'empreinte écologique. C'est l'exemple d'une vache, un organisme vivant, qui consomme des ressources, qui rejette des déchets, évidemment. Calculer l'empreinte écologique d'une vache, par exemple, ça voudrait dire calculer la surface de sol qui est nécessaire pour qu'elle puisse vivre, je veux dire, jusqu'à sa propre mort. Hein. C'est-à-dire la surface de sol nécessaire pour produire ce qu'elle va manger, et puis la surface de sol nécessaire également pour réabsorber les déchets qu'elle va produire. Alors, calculer l'empreinte écologique d'une vache, je ne sais pas si ça a été fait, mais ça ne doit pas être trop compliqué, même s'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, comme la productivité des sols, etc. Mais l'idée des gens qui ont inventé l'empreinte écologique, c'était de dire ça. Voilà, l'économie, par exemple la France, hein, le système économique français, consomme des ressources, rejette des déchets. Quelle est la surface de sol qui serait nécessaire pour, de manière durable, pérenniser ce mode de développement et donc ce niveau de vie? Sachant qu'évidemment, on considère ici, si vous voulez, l'image qu'on pourrait utiliser, c'est si chacun d'entre vous, vous vouliez pérenniser votre niveau de vie, mais que tout à coup, vous vous trouviez sur une île déserte. Quelle est la surface de l'île qui serait nécessaire pour fournir tout ce dont vous avez besoin et absorber tous vos déchets? L'idée un petit peu de l'empreinte écologique, c'est celle-ci. Alors, la définition très précise de l'empreinte écologique, je vous la donne, hein, c'est celle qui est un petit peu académique, mais elle résume un petit peu ce que je vous ai dit. Hein, l'empreinte écologique, c'est un outil comptable. Alors la notion d'outil comptable, ça réfère très clairement à la comptabilité, par exemple, au niveau national, à travers le PIB. Hein. Donc là, on est dans un outil un petit peu similaire, sauf qu'on ne va pas calculer de l'argent, on va calculer des ressources naturelles. Alors c'est un outil comptable qui permet d'évaluer la consommation des ressources et les besoins d'absorption des déchets d'une population humaine ou d'une économie donnée en termes de la superficie correspondante de sol productif. Donc ça, c'est la définition officielle, académique. Bon, peu importe. Si j'en reviens à la manière dont on s'y prend pour calculer cette empreinte écologique, il faut imaginer une situation dans laquelle on va calculer, par exemple, on va imaginer qu'on calcule l'empreinte écologique de la France. Alors on va regarder... Je commence par le bas, la surface d'espace marin qui est nécessaire pour produire tout ce qu'on va consommer, notamment les ressources halieutiques, hein, tout ce qui est poisson ou autre, tout ce qui provient de la mer. Donc on va regarder quelle est la surface de mer nécessaire pour alimenter l'économie française. On va également calculer la surface de forêt qui est nécessaire pour produire tout ce que l'économie française consomme en termes de papier, en termes de bois de construction, en termes de bois de chauffage, etc. On va calculer la surface de pâturage également qui est nécessaire pour faire fonctionner cette économie. Donc les pâturages, ça va être pour le lait, la viande, etc. On va calculer la surface de terres arables, donc toutes les autres terres cultivées. Et puis il y a deux notions qui sont un petit peu plus spécifiques à l'empreinte écologique. Il y a d'abord ce qu'on appelle les sols dégradés. Alors les sols dégradés, c'est tous les sols qui sont utilisés pour des constructions ou pour des infrastructures et qu'on ne peut plus utiliser pour l'agriculture ou pour produire... quoi que ce soit, ni de l'énergie, ni de la matière. Donc là, par exemple, on est sur ce qu'on appelle un sol dégradé, dans le sens où c'est définitivement utilisé par une infrastructure, on ne peut plus s'en servir pour produire de l'énergie et de la matière. Et puis, il y a une autre notion, qui est la notion de sol énergétique. Alors vous savez que nos sociétés vivent aujourd'hui, plus de 80% de l'énergie qui est consommée en France, c'est de l'énergie fossile. Donc par définition, si elle est fossile, on ne va pas pouvoir la léguer aux générations futures. Alors l'idée est la suivante. Si on se positionne dans le cadre de l'empreinte écologique où on veut léguer aux générations futures de quoi répondre à leurs besoins, hein, c'était la définition du développement durable qui était donnée tout à l'heure, il faut imaginer une situation dans laquelle il faudrait produire un équivalent au pétrole que nous consommons, par exemple. Donc dans l'empreinte écologique, on va essayer de calculer la surface de sol qui serait nécessaire pour produire, par exemple, les carburants que nous consommons aujourd'hui. Donc une fois qu'on a ces différents types de sols, pour la France hein, par exemple, on peut les réagréger les uns aux autres et on obtient une surface totale de sol qui est la surface de sol dont nous aurions besoin pour vivre de manière durable, pérenne. Pour faciliter la compréhension, ce qu'on fait c'est qu'on ramène cette surface au nombre d'habitants. Hein, donc on a une surface qui est exprimée en hectares par habitant. L'empreinte écologique d'un Français est de, par exemple, 5,2 hectares par habitant. Ça veut dire que chacun d'entre nous aurions besoin de 5,2 hectares de sol productif pour satisfaire nos besoins. Ça, c'est la matrice de calcul de l'empreinte écologique. Je ne rentre pas dans le détail, c'était juste pour vous montrer qu'en fait, on va calculer pour les aliments, pour le logement, pour les transports, pour les biens de consommation et les services, on va calculer à chaque fois les différents types de sols qui sont nécessaires. Si je prends un exemple, par exemple, sur les vêtements, pour fabriquer des vêtements, il faut de l'énergie. Donc, on va calculer quelle énergie est consommée pour fabriquer et vendre ces vêtements. Et puis, on va calculer la surface de sol qui est nécessaire pour produire le coton, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a une surface en terre arable. Et puis, enfin, il y a une surface de pâturage, si jamais vous utilisez un pull en laine, par exemple. Là, c'est plus de la surface de terre arable, mais de pâturage. Donc voilà grosso modo comment ça fonctionne. C'est un modèle qui est très complexe aujourd'hui, qui est très élaboré. C'est un indicateur qui commence à avoir une certaine reconnaissance au niveau politique, mais aussi scientifique. Juste pour vous donner une idée de la complexité, parce qu'on ne va pas rentrer dans cette complexité aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. Il y a aujourd'hui plus de 3000 données d'entrée pour calculer l'empreinte écologique de la France. Pour vous dire que c'est un outil statistique qui est quand même aujourd'hui très, très, très pointu. Mais l'idée de l'empreinte écologique, c'est pas... C'est évidemment de refléter une réalité qui est complexe, mais c'est d'arriver à une donnée synthétique à la fin, pour qu'elle soit facilement compréhensible. Alors là, sur ce graphique, vous avez l'empreinte écologique de différentes régions du monde. Alors, ici, vous avez la population mondiale. Donc, vous savez qu'on est un peu plus de 6 milliards d'habitants aujourd'hui à la surface de la Terre. Et puis là, vous avez l'empreinte écologique des différentes régions qui sont figurées. Alors, par exemple, le rectangle rouge qui est à gauche, c'est l'Amérique du Nord. C'est l'empreinte écologique moyenne d'Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'un Américain moyen, enfin, quand on dit Amérique du Nord, c'est à la fois le Canada et les États-Unis. Donc, quand je dis Américain, c'est au sens Amérique du Nord. Son empreinte écologique moyenne, vous voyez qu'elle est proche de 10 hectares par habitant. C'est-à-dire qu'il faudrait 10 hectares pour pérenniser ce mode de vie, pour produire toutes les ressources, pour assimiler les déchets, etc. L'Europe de l'Ouest, aujourd'hui, est aux alentours de 5 hectares par habitant. Donc, je vous ai dit, la France est à 5,2 hectares par habitant. Et puis, on voit qu'il y a des très fortes inégalités. Il y a un chiffre qui est assez connu, 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources mondiales. Ben, ces inégalités, on les voit très bien apparaître à travers l'empreinte écologique, puisque vous voyez que la grande majorité de la population mondiale, l'Asie, Pacifique, l'Afrique, a une empreinte écologique aujourd'hui qui est en moyenne inférieure à 2 hectares par habitant, 1,5 hectares par habitant. Donc vous voyez que le rapport va de 1 à 6 entre, par exemple, l'Asie et même l'Afrique et les États-Unis, par exemple. Donc une très forte inégalité de répartition des consommations de ressources au niveau mondial. Ce qui est intéressant avec cet indicateur, c'est qu'il nous permet d'avoir une mesure de référence de la durabilité écologique, telle que j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait que quand on fait la moyenne des empreintes écologiques mondiales, la moyenne est à 2,2-2,3 hectares par habitant. Or, quand on fait un calcul tout simple qui consiste à calculer, à mesurer la surface totale bioproductive sur l'ensemble de la planète, qu'on la divise par le nombre d'habitants au niveau mondial, on obtient un chiffre qui est de 1,8 hectare. Ce 1,8 hectare, si on considère la planète comme un gros gâteau, ce 1,8, c'est la part à laquelle chacun a droit si on est équitable. Donc l'empreinte écologique à laquelle chacun a droit, c'est 1,8 hectare par habitant. Si on veut vivre de manière durable, c'est-à-dire que les générations futures puissent vivre de la même manière que nous, il faudrait que nous ayons une empreinte écologique chacun inférieure à 1,8 hectare par habitant. Or aujourd'hui, on le voit, en France, on est à 5,2 hectares par habitant. Les États-Unis sont autour de 9-10 hectares par habitant. Et même la moyenne mondiale aujourd'hui est au-dessus de ce que la Terre est capable de fournir de manière durable. Ça se traduit. Alors, j'en reviens à la citation de Jacques Chirac à Johannesburg. C'est vrai qu'il avait eu cette phrase, mais il avait utilisé l'empreinte écologique parce qu'il avait dit « Si chacun Je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas noté ce qu'il avait dit, mais il avait dit en gros ça, si chaque habitant de la planète vivait comme un occidental moyen, c'est-à-dire, vous voyez, autour de 6 hectares par habitant, il faudrait deux planètes supplémentaires pour subvenir à nos besoins de manière durable. Alors il faut imaginer sur ce graphique qu'une planète, c'est 1,8 hectare par habitant, hein, c'est ce qui est disponible, et si on vit tous à ce niveau-là, effectivement, pour répondre à ces besoins, il faudrait deux planètes supplémentaires. Vous comprenez le problème, c'est que on ne les a toujours pas trouvés. Hein. Alors, ce qui nous permet, évidemment, ponctuellement, au niveau de l'histoire de l'humanité, ce qui nous permet ponctuellement, durant quelques décennies, de vivre au-dessus de la capacité de l'écosystème à se renouveler, c'est précisément que nous utilisons massivement des énergies et des matières qui sont fossiles. Donc, c'est vrai que, pour une petite période de l'histoire de l'humanité, on a pu, et on peut encore, hein, on est quasiment tous venus en voiture aujourd'hui, on peut encore le faire, mais nos enfants, nos petits-enfants ne pourront pas le faire. Donc la question est bien là, comment va-t-on faire dans les années à venir pour descendre notre empreinte écologique au fameux 1,8 hectare par habitant ? C'est, je crois, un des grands enjeux.
Encore 15 minutes.
Très bien, ben, j'y serai largement dans les temps. Alors, là, c'est l'évolution de l'empreinte écologique mondiale depuis les années 1960. Ce qu'on voit, c'est que très clairement, il y a eu une forte augmentation de l'empreinte énergétique. Aujourd'hui, l'empreinte écologique dans les pays du Nord, elle est constituée à 50% à peu près par ce qu'on appelle l'empreinte énergétique, c'est-à-dire les consommations d'énergie, et en particulier, bien entendu, les consommations d'énergie fossile. Et puis, il s'est passé cet événement dans les années 1980, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'empreinte écologique mondiale est devenue plus importante que la biocapacité mondiale, c'est-à-dire que la capacité de l'écosystème à subvenir à nos besoins, elle a été dépassée dans les années 1980. Donc finalement, c'est un problème relativement récent. D'ailleurs, la date 1987 coïncide à peu près au moment où on a commencé à se dire notre développement n'est pas durable. Donc il fallait mettre le doigt sur ce problème. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les résultats un petit peu globaux de l'empreinte écologique. Si on regarde la répartition de cette empreinte écologique, on a fait un exercice il y a 2 ans, c'était en 2003. On a fait le calcul, le Grand Lyon, la communauté urbaine de Lyon, a essayé de calculer l'empreinte écologique de son territoire, de ses habitants. Alors ça a donné lieu à une étude, et on est arrivé à ce résultat, vous voyez, 4,89 hectares par habitant. Donc on se rend compte qu'un Grand Lyonnais, pour plusieurs raisons, a une empreinte écologique un petit peu inférieure à la moyenne française, qui est de 5,2. Néanmoins, par rapport au 1,8 dont je vous parlais tout à l'heure, il y a encore de gros efforts à fournir, on est encore loin du compte. Là, c'était, quand on regarde un petit peu le détail de cette empreinte écologique, on se rend compte, c'est ce que je vous disais, hein, plus de la moitié de l'empreinte écologique, c'est la consommation d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder la manière dont est répartie cette empreinte écologique en termes de secteurs d'activité. On se rend compte que c'est l'alimentation qui vient en tête de l'empreinte écologique, avec plus de 34% de l'empreinte écologique. Hein. Et puis ensuite, on a la production de biens et de services, et puis la mobilité. Alors il y a un petit biais quand même, c'est que aujourd'hui, ce qui fait fortement augmenter l'empreinte écologique, c'est les transports, notamment les transports de marchandises. Et dans le petit camembert mobilité, là, 25% de l'empreinte, il n'y a que la mobilité individuelle. La mobilité des biens et des services ou de l'alimentation sont comprises dans les camemberts alimentation et biens et services. Donc aujourd'hui, on est confronté à cette problématique. On voit que la problématique énergétique est également assez centrale dans cette question de la durabilité. Pour illustrer un petit peu mieux ce qu'est l'empreinte écologique, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait l'exercice, mais si vous avez accès à Internet, vous pouvez aller sur certains sites, notamment celui du WWF, où il y a un petit calculateur qui vous permet d'estimer votre empreinte écologique. Donc là, tout ce que je vous ai présenté, qui est assez théorique, assez global, on commence à toucher du doigt des problématiques, mais qui sont très globales, on se rend compte que, évidemment, tout ça est très lié à notre mode de vie. Alors, vous pouvez vous-même évaluer, estimer votre empreinte écologique en allant sur l'un de ces sites Internet. vous allez vous voir poser un certain nombre de questions qui touchent à votre mode de vie, votre alimentation. Par exemple, si vous mangez beaucoup de viande, bah, votre empreinte écologique va être moins bonne parce que pour produire un kilo de viande, il faut peut-être 7-8 kilos de céréales ou autres, etc. Donc, évidemment, l'empreinte écologique peut jouer là-dessus. Si vous avez un 4x4 ou si vous avez... alors là aussi, votre empreinte écologique va en prendre un mauvais coup. Si vous prenez l'avion plusieurs fois par an, que vous faites 10 000 km d'avion, là aussi, bon, vous allez voir. Donc, en fait, évidemment, cet outil, c'est pas fait pour culpabiliser les gens dans leur mode de vie, mais c'est juste pour essayer d'identifier à votre échelle là où vous pouvez baisser votre empreinte écologique de votre côté. Donc, on avait fait cet exercice sur la communauté urbaine de Lyon, où on était allé voir très précisément, on avait pris l'exemple de 7 personnes, mais des vraies personnes, des vrais grands Lyonnais, et on avait essayé de calculer leur empreinte écologique de manière très détaillée. Alors, par exemple, on avait l'empreinte écologique d'un Guillaume qui avait 29 ans à l'époque. On a analysé son mode de vie, ses consommations d'énergie, etc. Et puis, on a calculé son empreinte écologique. Alors lui, il avait une empreinte écologique de 4,9 hectares par an, donc il était pile dans la moyenne du Grand Lyon. Et on se rendait compte que c'était, par exemple, sur la mobilité qu'il était très mauvais. Alors on a analysé ça, bon, ça s'expliquait parce que il habitait en périphérie de ville, il travaillait au centre et il utilisait sa voiture tous les jours. Et ça faisait beaucoup de kilomètres. Et au final, c'était la partie qui le pénalisait et qui faisait qu'il avait une empreinte écologique assez forte. Mais ça lui a permis à lui aussi de se dire, bon, ben voilà un élément sur lequel je peux essayer de travailler pour baisser mon empreinte écologique. Donc voilà des outils très pragmatiques qui permettent aujourd'hui de nous dire, ben voilà, je suis bon là-dessus, je suis pas bon là-dessus. Si je veux un jour arriver à une empreinte écologique plus faible, il faudra que je fasse des efforts. Alors si vous allez faire votre calcul d'empreinte écologique sur un site internet, vous allez être assez surpris parce que vous vous rendrez compte que première question qu'on vous demande, c'est quelle est votre nationalité ? Évidemment, puisqu'on part de la moyenne nationale et puis après, on va voir si vous êtes plutôt en dessus, en dessous. Mais vous allez être un petit peu désespéré parce que vous allez vous rendre compte que même si nous, on avait le cas, par exemple, d'une étudiante végétarienne qui n'avait pas de voiture, vous voyez le topo, elle faisait du vélo, on s'est dit, elle va avoir une super empreinte écologique et finalement, elle avait quand même une empreinte écologique supérieure à 3 hectares par habitant. C'est un petit peu décourageant parce qu'on se dit, mais si l'objectif c'est 1,8, c'est impossible d'atteindre le 1,8. Or, c'est là que l'empreinte écologique est intéressante, c'est que aujourd'hui, individuellement, vous pouvez baisser votre empreinte écologique, mais vous partagez aussi l'empreinte écologique de l'ensemble des Français, l'empreinte collective, on pourrait l'appeler comme ça, hein, et ça ne peut bouger que par la politique. Donc, l'empreinte écologique permet bien de mettre le doigt sur un fait, c'est que si on veut devenir durable, hein, si on veut un mode de vie, un système durable, il faudra à un moment donné un engagement de la part des citoyens dans leur vie quotidienne, dans leur manière de consommer, mais il faut aussi qu'il y ait un engagement global, collectif, politique, qui aille dans le même sens. Sinon, vous aurez une empreinte écologique de 3 hectares en étant végétarien, en faisant du vélo et en faisant beaucoup d'efforts, mais finalement, ça ne suffira pas à faire baisser l'empreinte écologique globale. Donc voilà un petit peu pour vous montrer que l'empreinte écologique, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est un indicateur pragmatique qui peut être utilisé politiquement. Hein. On pourrait par exemple imaginer le calcul de l'empreinte écologique de la région Rhône-Alpes comme ça a été fait sur le Grand Lyon. Ce serait intéressant. Donc je vous invite évidemment à essayer de calculer votre empreinte écologique. Maintenant, vous avez compris, pour finir là-dessus, que l'empreinte écologique, son petit défaut, c'est que c'est un indicateur purement écologique, environnemental. Et il ne nous dit absolument rien sur la qualité de vie et sur le niveau de développement d'un pays ou d'une société. Or, le développement durable, même si on verra que le terme est très critiquable, le développement durable, c'est essayer justement de concilier un niveau de vie, un certain niveau de développement, tout en étant écologiquement durable. C'est ça le défi hein, du développement durable. Donc pour illustrer la problématique, je voudrais vous montrer comment on peut utiliser l'empreinte écologique pour illustrer la problématique du développement durable. Alors je vais utiliser un indicateur de développement qui s'appelle l'indicateur de développement humain, peut-être que certains en ont entendu parler, l'IDH. C'est les Nations Unies qui, à la fin des années 1980, se sont posées un certain nombre de questions sur la croissance, en particulier le PIB. Et ils ont considéré, les experts des Nations Unies ont considéré que le PIB était finalement un très mauvais indicateur de développement, il reflétait très mal le niveau de développement des pays. Donc ils ont inventé un indicateur un petit peu plus qualitatif, qui s'appelle l'indicateur de développement humain. Je ne rentre pas dans le détail de sa définition. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le développement humain, dans cet indicateur, on prend en compte le PIB par habitant, certes, mais on prend également en compte le taux d'alphabétisation des adultes, le niveau moyen d'éducation, et puis l'espérance de vie. Donc vous voyez que c'est déjà un peu plus qualitatif que le seul PIB. On va s'intéresser à des données un peu plus qualitatives. Et puis ce qu'il faut retenir simplement, je ne rentre pas dans le détail du calcul, hein, on est en train de faire également ce calcul. En ce moment, je suis en train de faire le calcul de l'IDH pour la communauté urbaine de Lyon, par exemple. Eh bien, l'IDH, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un indice qui est compris entre 0 et 1. Ce qu'on fait, c'est que pour chaque donnée, par exemple pour l'espérance de vie, on donne 1 à celui qui a le plus haut niveau d'espérance de vie, hein. En fait, c'est 85 ans. Et puis tous les autres, on les échelonne par rapport à ça. Ce qui fait qu'en France, aujourd'hui, on a une espérance de vie qui n'est pas loin de 80 ans. Donc ça veut dire qu'on a 0,95 en termes d'IDH. Donc on réagrège toutes ces données, puis on obtient ce fameux indicateur de développement humain, qui est compris entre 0 et 1. Et juste autre chose qu'il faut retenir, c'est que les Nations Unies, quand ils publient ce rapport annuel sur le développement humain, ils considèrent que les pays qui ont un niveau de développement humain supérieur à 0,8 sont les pays développés. Alors là, c'est intéressant parce que avec ces deux indicateurs, l'empreinte écologique et l'IDH, on arrive du coup à avoir une mesure assez précise du fameux développement durable. Un développement durable, ça voudrait dire quoi ? Un développement humain supérieur à 0,8 IDH et une empreinte écologique inférieure à 1,8 hectare par habitant. Alors, malheureusement, mon slide ne se construit pas, il y a un petit problème. Donc je vous présente les résultats avec 130 nations du monde. Vous voyez que l'objectif dont je vous parlais, le développement durable, c'est la case en haut à gauche. Un niveau de développement supérieur à 0,8, une empreinte écologique inférieure à 1,8 hectare par habitant. Et quand on met les pays, 130 nations du monde sur ce graphe, on se rend compte de quoi ? Malheureusement, il n'y a personne dans la bonne case. Il n'y a personne dans la bonne case. Donc on parle beaucoup de développement durable, mais personne n'atteint cet objectif aujourd'hui. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que le développement durable, ça ne veut pas du tout dire la même chose selon l'endroit où on va se positionner au niveau mondial, par exemple. On se rend compte que les pays ici, ils sont écologiquement durables, mais ils ont un faible niveau de développement humain. Mais nous qui sommes par là, et les États-Unis qui sont là, sont peut-être encore plus loin de l'objectif, finalement. Donc ça recrée un petit peu une hiérarchie nord-sud, parce qu'on se rend compte qu'en matière de développement durable, hein, on aura l'occasion de reparler, de critiquer ce concept, mais si on prend cette définition-là, on se rend compte que finalement, les pays du sud n'ont pas plus d'efforts à faire pour devenir socio-économiquement développés que les pays du Nord pour devenir écologiquement durables. Donc ça veut dire qu'on a tous autant d'efforts à faire pour rentrer dans la bonne case. Mais ça veut dire que pour nous, le développement durable, si tant est qu'on accepte ce concept, ça voudrait dire garder le même niveau de développement, mais en divisant par 3 notre empreinte écologique. Alors vous imaginez les défis qui sont posés au XXIe siècle à nos sociétés pour remplir cet objectif. Donc voilà, c'était une petite illustration de la problématique. Ce qu'il faut juste retenir, moi j'ai mis là en pointillé, vous voyez, une flèche. C'est ce qu'on pourrait appeler la courbe du développement classique. Ce fameux développement dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, mais c'est celle qui mène des pays pauvres au modèle, entre guillemets, que sont les États-Unis. Je dis bien entre guillemets. Cette courbe aujourd'hui, elle est complètement à remettre en cause parce qu'on se rend compte que le développement tel qu'on le prône, et si on suit cette courbe, eh ben, on va droit dans un mur, quoi. Donc aujourd'hui, la durabilité écologique qu'on essaye de mesurer à travers l'empreinte écologique, ça veut dire complètement revoir nos modes de développement pour arriver à consommer 2 à 3 fois moins d'énergie et de ressources. Donc voilà les objectifs qu'on peut se fixer. Voilà, j'en ai terminé.
Donc, merci à Aurélien qui a fait un exposé synthétique en 30 minutes, c'est fabuleux. Donc, je vais me tourner vers Didier Jouve et Jean-Louis Cloy. en leur proposant entre 5 et 10 minutes pour apporter un petit peu une illustre, enfin, un témoignage, hein, puisqu'ils sont dans les affaires de gestion de la collectivité. Alors là, on a vu qu'il y avait une petite case, on essaye un peu de sortir des cases, mais on nous propose encore une autre case. Bon, l'idée est de voir sur le territoire qu'est-ce qui se passe et comment, qui c'est qui veut commencer ?
C'est vrai que dans les endroits dans lesquels on se trouve et compte tenu du travail qu'on a à faire, on a besoin de temps en temps de points de repère, de petites cases, et on a aussi besoin de beaucoup de pédagogie parce que vous le sentez tous ici, la question est très largement culturelle, pas seulement technique, pas seulement financière, pas tellement. C'est pas un problème qui est gérable uniquement par des ingénieurs, c'est au fond une vraie question culturelle, à savoir qu'il faut qu'on arrive à réintroduire dans la réflexion des choses qui ont été complètement oubliées. Alors on commence souvent maintenant à la région Rhône-Alpes par rappeler ce qui vient d'être fait, qu'on est sur une planète et qu'on n'en a pas d'autre, et que cette planète augmente chaque année de 90 millions d'habitants, l'équivalent de l'Allemagne, que les inégalités sur cette planète sont en accroissement énorme, que ces inégalités sont de plus en plus visibles parce qu'on est dans un village global et que la confrontation, elle est à chaque instant. Je vais de temps à autre, dans un cadre de coopération, dans le cadre de mon boulot, en Afrique, dans des coins très perdus du Sahel, où il n'y a pas l'électricité, mais où il y a déjà des générateurs avec lesquels les gens sur place font tourner la télévision. Et ils sont dans des cases, sur la place du village, ils regardent la télévision, et sur la télévision, il y a le dernier feuilleton brésilien, plein de grosses bagnoles. Et imaginez. Et puis un peu plus tard, ils regarderont les informations et ils verront les gens en train de se faire tirer dessus à Melilla. Imaginez la confrontation culturelle que cela représente. C'est évident que ces inégalités, qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus visibles, rendent notre monde évidemment de moins en moins durable. Et puis bien sûr, il y a une crise écologique, on vient d'en parler abondamment, je dirais pour couronner le tout. Mais même si cette crise écologique n'était pas là, nous aurions quand même de sérieux problèmes à nous poser pour l'avenir, ne serait-ce qu'avec les deux premières. Cette crise écologique qui fait que on est en train de finir d'épuiser nos ressources. On sait qu'aujourd'hui, et sans tomber dans le catastrophisme, mais il y a des réalités. Les ressources prouvées de pétrole ont atteint leur pic il y a plus de 30 ans. C'est-à-dire que c'est dans les années 70 qu'on a fait les plus grandes découvertes de champs pétrolifères. Et depuis, ça n'a pas cessé de baisser. Et tout à fait logiquement, 30 ans plus tard, ou 35 ans plus tard, c'est la courbe de production qui va décroître. Ça veut dire que vous n'avez encore rien vu de ce que va être la crise pétrolière dans le monde. Et quand on observe qu'aujourd'hui, il suffit qu'il manque 1 ou 2% de production pour faire flamber les prix, on imagine sans peine ce qui va se passer dans les 5 à 10 années qui viennent, quand la production globale, mécaniquement, parce qu'on en a moins trouvé il y a 30 ans, quand cette production globale va vraiment descendre. On va redécouvrir combien notre modèle de développement est basé sur une consommation effrénée d'une ressource qui n'est pas renouvelable. Et vous imaginez tout à fait ce qui se passe quand le pétrole passera à 100 € le baril, à 200, à 300 € le baril, va être de plus en plus réservé à des usages évidemment plus nobles. Et tout le système qui repose sur cette consommation d'énergie va rentrer en crise très profonde. Pour le moment, le décideur public, celui qui parle tous les jours de la façon dont il faut s'y prendre, utilise un indicateur qui est le PIB. Et même si vous en avez déjà parlé, je souhaite en dire un mot. J'en dis un mot chaque fois que je suis devant des responsables, devant des élus. Je dis attention, vous utilisez, pour mesurer l'efficacité des politiques publiques, l'indicateur le plus idiot qui soit. C'est un truc complètement crétin, qui mesure de la même manière, qui mesure des flux financiers d'abord, ce qui en termes d'efficacité sociale ne veut pas forcément dire grand-chose, mais même quand on mesure des flux financiers, un PIB, ça vous mesure de la même façon. Le coût d'intervention des ambulances et des équipes de désincarcération sur un carrefour qui fait 3 morts par an, ça fait du PIB. Et va vous mesurer de la même façon le coût du rond-point que vous aurez fait pour éviter tous ces accidents. C'est même catastrophique de faire un rond-point. Parce que d'un seul coup, vous allez supprimer 3 accidents par an, et donc vous allez supprimer une masse considérable de PIB avec les travaux que vous aurez faits. À ce simple exemple, on mesure l'imbécilité de cet indicateur, et c'est pourtant avec celui-là que sont construits actuellement encore l'essentiel des réflexions des politiques publiques. Donc là, on a un vrai chantier, et c'est pour ça que l'empreinte écologique, par exemple, ou l'indice de développement humain, deviennent des outils qui doivent rentrer dans les circuits d'aide à la décision pour modifier la façon dont les gens qui ont des choix à faire pour les autres les feront. Vous avez bien noté que dans l'empreinte écologique, évidemment, on n'a pas encore la mesure du bonheur. Et puis d'ailleurs, peut-être que ce n'est pas utile de fabriquer un outil qui mesure le bonheur, mais peut-être quand même qu'on peut réfléchir à la façon dont on intègre dans nos réflexions combien de gens vivent dans des situations de stress, combien de gens, parce que la vie les y oblige, en vivant d'une certaine manière, sont privés d'amour, ou combien de gens consomment du temps contraint tous les jours parce qu'on leur a mis leur logement ici et leur emploi là-bas. Et ça fait aussi partie, à mon avis, des indices qu'il faudra arriver à créer. En tout cas, pour ce qui concerne mon boulot ici à la région, pour l'instant, d'aménagement du territoire, je me rends compte qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Et qu'on a besoin, pour le faire, d'approches globales, la construction de ces politiques, parce que les choses se tiennent. Ça aussi, on l'a vu, l'énergie est au cœur de la crise, sera au cœur de la crise, est au cœur de la question. L'énergie renvoie, si on prend la question de l'habitat, aussi bien à la façon dont on construit les logements, avec quel type de matériaux. Certains consomment infiniment plus d'énergie que d'autres. Comment on les chauffe? Là aussi, de vrais débats intéressants. Et d'ailleurs, il faudrait que j'élucide la question de l'énergie nucléaire par rapport à cela. Vous nous direz tout à l'heure comment elle impacte l'empreinte écologique, ça m'intéresse. Mais également, où est construit ce logement? Va-t-il générer une demande accrue de transport? Parce qu'il est planté à un endroit qui est loin des zones d'emploi, par exemple. Ou parce qu'il est planté à un endroit où il n'est pas possible de mettre en place du transport collectif. Est-ce que ce logement qui va être construit consomme encore du terrain, de l'espace, de plus en plus, ou est-ce qu'on est capable d'inventer d'autres formes d'habitat qui en même temps répondent bien aux demandes des gens, parce que les gens ont le droit à un logement de qualité, un logement sain, un logement agréable à vivre, et en même temps, on doit évidemment comprendre comment on maîtrise la consommation de terrain. Bref, je voulais faire court, et donc je vais m'arrêter presque tout de suite, pour vous dire qu'on a besoin d'un ensemble d'outils qui reconstruisent des réflexions d'ensemble pour que les politiques qu'on mène soient articulées, pour qu'on n'ait pas des gens qui répondent dans un coin à des questions environnementales, tout en tournant le dos à des réflexions qui pourraient se produire sous l'angle de l'habitat, de l'aménagement du territoire, ou bien encore de l'agriculture. Le vrai chantier... Et je me tourne vers Éric Arnoux, qui est mon collègue à la région et qui lui est vice-président, qui est président de la commission agricole à la région. Le vrai chantier, c'est d'amener un ensemble de décideurs, et il y a 157 conseillers régionaux, avec des outils pédagogiques, avec des moyens de conviction, à intégrer l'idée qu'aujourd'hui, on doit, la formule est belle et elle reste très belle, penser globalement, agir localement, c'est-à-dire avoir cette capacité à situer chaque choix qu'on fait tous les matins dans nos décisions politiques par rapport à une vue d'ensemble des grands enjeux que nous avons. Alors, c'est pas de la tarte, je dirais, et on y reviendra sans doute tout à l'heure quand on débattra sur décroissance, développement durable, utilisation d'un certain nombre d'images, de concepts ou de propositions, parce que il y a les convaincus, c'est facile. Il y a ceux qui se posent des questions avec lesquelles il faut entrer en discussion. Il y a ceux qui ne s'en posent pas, dont il va falloir faire en sorte qu'ils commencent à s'en poser. Et puis, arriver à comprendre dans les champs culturels où tous ces gens se situent, comment on va pouvoir travailler avec eux, entrer dans leurs réflexions, les amener plus loin, pour qu'au bout du compte, Pas seulement on se fasse plaisir en pensant qu'on a raison, mais au bout du compte, on ait réellement fait évoluer les choses à travers les leviers dont on dispose.
Bien, donc merci à Didier Jouve donc, pour cette présentation sous forme de chantier. Hein, là, c'est plus un constat. Donc je laisse la parole à Jean-Louis Cloy.
Merci. Je partage avec Didier Jouve l'idée qu'on a probablement besoin d'outils, on a probablement besoin de méthodes, et ce qui vient de nous être exposé à travers l'empreinte écologique, je vais être honnête, hein, que je découvre en grande partie aujourd'hui, est probablement un outil à disposition des gens qui sont sur le territoire, des élus, mais pas simplement des élus, tous les gens qui sont là dans la salle et qui, à un moment ou un autre, agissent sur le territoire. Mais je pense à travers un indicateur très sophistiqué, j'ai cru comprendre qu'il y avait 3000 variables, enfin qu'il y avait, ça me paraissait un outil très sophistiqué. Je suis toujours un petit peu sur la réserve vis-à-vis de ces outils sophistiqués, parce que moi, il me semble qu'à travers l'utilisation de ces outils, ce qui me semble l'élément majeur, c'est le débat, c'est la façon dont on va s'emparer de ces outils et dont on va pouvoir se poser un certain nombre de questions sur le territoire. C'est vrai qu'ici, on est dans un territoire rural, ce qui veut dire qu'on est dans un territoire où, quand il neige, eh ben, ça a un impact sur notre vie immédiate. Ça pose des problèmes de déplacement, mais c'est aussi un endroit où on trouve des solutions pour résoudre ce genre de problème. Et c'est vrai que la relation à l'environnement, elle est peut-être un petit peu différente. On est aussi sur un territoire, et moi j'aimerais vous poser des questions sur l'utilisation de l'empreinte écologique dans les interrelations entre les différentes composantes de la société. On est sur un territoire rural à proximité des grandes villes, dont la caractéristique principale est d'être en interrelation, et en interrelation très forte avec son environnement. Et Didier Jouve évoquait un certain nombre de ce qui était appelé des chantiers, qui sont au cœur de nos débats. Par exemple, quand on évoque la problématique de l'habitat, il l'évoquait à travers la problématique de la construction, des économies d'énergie. Nous, ce qu'on vit actuellement dans les mondes du Lyonnais, c'est la problématique tout simplement de l'accession à l'habitat. Accession à l'habitat social, accession à l'habitat pour la construction, parce que un des constats sur ces dernières années, c'est que le prix du foncier a tellement augmenté qu'une partie des gens du territoire vont avoir du mal à se loger sur le territoire. Donc il me semble que à travers le débat que vous ouvrez, il y a un autre champ que moi j'aimerais ouvrir, c'est le champ de l'interrelation sociale et de la façon dont, à travers des outils de mesure, quels qu'ils soient, quelle que soit la qualité des outils de mesure, qu'on croise l'empreinte écologique avec les éléments du développement humain, il me semble que la question de l'appropriation de ces questions-là, la façon dont, parce qu'on pourrait très bien imaginer, et on le voit bien sur tous les débats qu'il y a sur la maîtrise de l'effet de serre et le commerce des permis de polluer, on pourrait très bien imaginer, et vous l'avez à mon avis assez clairement expliqué, trouver un modèle où pour développer notre empreinte écologique, pour améliorer notre empreinte écologique, bien on pourrait, je me demande si c'est pas ces schémas, vous avez évoqué la situation d'Amérique du Nord, où on pourrait trouver toute une partie de la population dans laquelle l'empreinte écologique serait largement diminuée parce qu'ils n'auraient pas accès à un certain nombre de mécanismes de fonctionnement de nos sociétés, et que les empreintes écologiques, parce que les plus élevées, parce qu'on a les moyens financiers d'y accéder, elles seraient réservées à une certaine catégorie de la population. Il est probable que ce n'est pas vers le type de développement vers lequel on souhaite aller. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse au-delà de la construction de ces indicateurs, à la façon dont on peut débattre, s'emparer collectivement de ces indicateurs. Vous avez cité, par exemple, un exemple, Thierry a évoqué le fait qu'on soit venu en voiture chacun, probablement à cette table ronde. Oui, si ça se trouve, on est même venu un par un en voiture. Ça serait intéressant d'aller faire un tour sur le parking. Une des questions qu'on se pose, par exemple, actuellement dans les monts du Lyonnais, c'est quelle est la problématique des transports dans le contexte que vous venez d'évoquer, dans un territoire rural à périphérie, dans la périphérie des grands centres urbains, et comment est-ce qu'on peut essayer d'imaginer, de travailler sur cet élément-là, qui est, et vous l'avez rappelé de façon forte, qui a un impact extrêmement important dans notre empreinte écologique. Ce dont moi je suis persuadé, c'est que si on veut travailler sur cette question dans les monts du Lyonnais, qui est une question importante, il faut qu'on y travaille à plusieurs, et qu'on y travaille de plusieurs points de vue, de plusieurs postures. Il y a la posture des élus. Moi, je suis actuellement dans la posture de l'élu, c'est-à-dire de l'élu de la démocratie représentative qui a été élu pour un certain nombre de missions, mais il y a aussi un certain nombre d'autres gens qui se posent des questions sur la problématique du transport, mais d'une autre posture. Je pense que pour un territoire comme le nôtre, il me paraît impératif au jour d'aujourd'hui qu'on croise nos points de vue et qu'on construise ensemble, qu'on co-construise des solutions qui permettent de prendre en compte l'ensemble des, si ce n'est l'ensemble, du moins, d'ouvrir largement un débat pour répondre à ces différentes demandes sociales. Et à travers le projet qu'on a lancé, à travers le travail qu'on a lancé sur l'élaboration d'un projet de territoire qui va d'ailleurs nous permettre de contractualiser avec la région sur un certain nombre de questions, mais aussi de poser la question dans un certain nombre d'autres instances, hein, instances européennes, instances nationales, de s'organiser sur le territoire. Mais il va falloir qu'on aborde ces problèmes-là, probablement en utilisant ces outils-là. Mais moi, j'ai envie de dire, en ayant le souci constant, parce que ça fait aussi partie de ce qui caractérise le territoire, de porter le débat sur le territoire. Et aujourd'hui, et ça c'est aussi un point de vue que je partage avec Didier Jouve, aujourd'hui, un des enjeux me semble la pédagogie autour de ces questions-là. C'est pour ça que le débat qu'on a cet après-midi me semble un élément intéressant, important, susceptible de faire un petit peu avancer le bouchon.
Donc merci pour cette première partie. Si je peux résumer d'une façon assez courte pour vous donner ensuite la parole. Donc vous avez eu la présentation là de, on va dire, d'un calculateur, hein, d'une méthode de calcul qui permet de montrer ce qu'est une empreinte écologique. Ensuite, on vous a montré qu'il y avait des chantiers. La région avait souhaitait entamer des chantiers sur ces questions-là. Et puis que localement, il y avait des gens qui... Malgré cette question d'empreinte écologique, ces questions d'écologie, il y a des questions concrètes à régler au jour le jour, comme le logement et les transports, et qu'il faut répondre demain à ces questions-là en essayant de s'organiser et comment. Donc je vous invite en tout cas à garder les perspectives comme la décroissance, ce type de questions pour la deuxième partie, et de réagir ou poser des questions sur ce qui a été dit jusqu'à présent.